BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Cette semaine, nous recevons Mathieu Morgenstern qui fête son premier anniversaire à la tête de WPP France. Simon Tenenbaum qui signe l'édito de la semaine reviendra sur une étude du cabinet Wyman qui permet d'y voir plus clair sur l'impact potentiel de la pub télé segmentée en France. Et puis on va s'intéresser à la renaissance de marques mythiques avec Jérôme Ness, directeur marketing produit chez Electrolux et la fameuse marque Frigidaire. Et puis Céline Le Tutorto Richi, la directrice marketing et communication de Hops Group pour la marque Patogas. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne pour les news.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, Schweppes nous a dévoilé cette semaine un nouveau film publicitaire et ça s'appelle Braquage sous les tropiques.
C'est un braquage plutôt amusant, musique de film d'action, décor paradisiaque en Thaïlande. Un serveur prépare un cocktail à une jeune femme dans un bar de plage et c'est là que tentent d'intervenir les braqueurs. Trois petits singes au regard malicieux, scotchés au plafond, plaqués sur la porte du réfrigérateur. Il tente sans succès de subtiliser les fruits que le barman utilise pour son cocktail. Un film pour promouvoir le nouveau Schweppes Agrumes et imaginé par BETC.
Après les rejets de recours effectués par JC Decaux et Exterion Media, Clear Chanel remporte le mobilier urbain de la ville de Paris.
Clear Chanel va exploiter les 1630 mobiliers urbains d'information de Paris, ces panneaux d'affichage publicitaire. Le contrat est signé jusqu'en 2024. Les premières installations auront lieu en septembre, des installations qui se veulent responsables, puisqu'à chaque mobilier urbain implanté, un arbre sera planté dans une forêt d'Île-de-France. Les mobiliers seront composés de matériaux recyclables et équipés d'un éclairage LED avec gradateur de lumière pour optimiser leur consommation énergétique.
Renault poursuit tranquillement son offensive dans les contenus.
Après avoir pris une participation dans Challenge fin 2017, Renault annonce un partenariat avec Publicis. Ils vont développer une plateforme de contenus éditoriaux, des médias qui seront destinés à agrémenter le temps de parcours des passagers dans les futures voitures autonomes.
Et puis Ouigo s'adresse aux jeunes de 20 ans dans son dernier film des jeunes fauchés, mais avec beaucoup d'idées.
La voix d'Aznavour, le titre hier encore pour ce film qui nous montre la vie de trois jeunes colocataires avec peu de moyens. Ils sont devenus les rois du système D. Ils font cuire des spaghettis dans une bouilloire. Ils font fondre leur fromage à raclette sur un fer à repasser. Ils profitent même de l'eau du bain pour laver leur linge sale. Avec cette campagne, Ouigo s'adresse à ces jeunes qui cherchent à tout prix à faire des économies et leur propose une offre à partir de 19€, un film signé Rosa Parks.
Ouais, et on entend derrière vous cette chanson d'Aznavour, ce qui me fait penser, Frédéric, qu'en ce moment, il y a vraiment une place prépondérante là des chansons dans la pub.
Ouais, il y a un vrai retour de la chanson. Alors c'est vrai que c'est, on parle de Rosa Parks. Rosa Parks est une agence qui aime beaucoup appuyer ses campagnes là-dessus. C'est un peu une tendance générale. On se souvient souvent très très bien des musiques, presque mieux que des images. Donc
c'est plutôt une bonne idée alors.
C'est plutôt une pas mauvaise idée. Ouais.
Merci Marie Valogne.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Mathieu Morgenstern. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le CEO de WPP France. Quand on dit WPP, on pense encore à Martine Sorel. Ça fait pourtant un an qu'il est parti. Est-ce que aujourd'hui, vous avez trouvé les moyens d'aller de l'avant chez WPP et d'effacer cette image pour passer à autre chose?
Alors, on va de l'avant chez WPP d'abord parce que on a un nouveau CEO pour le monde, qui est Marc Reed, qui a donné une dynamique impressionnante à WPP en changeant le statut de WPP. C'était une holding financière qui était la holding de grands réseaux qu'on connaît assez bien comme Ogilvy, Young et Rubicam. Et c'est devenu un groupe très intégré où tout le monde travaille ensemble de manière à mutualiser énormément les moyens au service de nos clients. Donc la dynamique est là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rationalise?
Ça veut pas dire qu'on rationalise. Ça veut dire qu'on construit nos solutions autour de nos clients en composant des équipes qui viennent des différentes expertises, du digital, du média, de la publicité, pour construire des équipes avec beaucoup de technologie au cœur pour délivrer de l'expertise très pointue pour nos clients.
Alors c'est justement, vous dites, jusqu'à présent WPP était une holding, c'est devenu une compagnie. La différence est subtile, mais ça veut dire que désormais on parlera de WPP comme un groupe, alors qu'avant on parlait que des agences du groupe. Et vous avez annoncé hier que vous mettiez tout le monde à Paris dans le même immeuble. Donc vous devenez quelque chose de tangible, de concret. Il y aura écrit WPP en gros sur l'immeuble.
Oui, il y a du très concret. D'abord, le fait que dans 2 ans, on soit tous regroupés dans un même immeuble.
C'est 5000 personnes.
5000 personnes en France, WPP, hein, donc c'est comparable à nos deux grands concurrents français. Dans le monde, juste pour comprendre les échelles, c'est 150 000 personnes. C'est le premier groupe marketing mondial. Et quand ce groupe regroupe toutes ses forces pour les mettre au service de ses clients avec une seule clé d'entrée qui est WPP pour créer l'aspiration et l'intérêt pour nos clients, ça change beaucoup. Oui.
D'accord. Justement, vous venez de le dire, vous êtes le premier groupe marketing mondial et pourtant en France, vous faites un peu figure de challenger par rapport à Havas et Publicis. Vous, ça fait un an que vous êtes à la tête de WPP en France. C'est quoi votre stratégie pour changer ça?
Alors en fait, dans la réalité, on n'est pas challenger. D'abord parce qu'on est 5000 personnes en France, donc c'est comparable à nos concurrents. Deuxième raison, c'est parce qu'on est probablement le groupe qui a le plus investi dans la technologie et c'est ce qu'aujourd'hui nos clients recherchent. On a gagné des très grands budgets mondiaux d'entreprises françaises qui historiquement travaillaient plutôt avec nos concurrents français et qui ont décidé de se tourner vers nous pour deux raisons, comme PSA par exemple, ou Richemont. Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils ont voulu bénéficier d'un réseau mondial, parce que ces grands groupes français ont besoin de se développer dans le monde entier, pas seulement en France. Et aujourd'hui, travailler avec WPP, ça veut dire être très fort en Asie, être très fort aux États-Unis, pas seulement en France ou en Europe. Mmh. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on a investi de manière massive dans la technologie, dans l'AdTech, MarTech. Aujourd'hui, il y a Vivatech, cette semaine, donc c'est une actualité forte. Nous, on a investi $1 milliard par an depuis 8 ans. Sur la tech. Donc on est très en pointe sur ces sujets-là et donc bénéficier de WPP pour les clients, c'est ça aussi. Et ça nous rend très fort sur le marché, y compris sur le marché français.
Alors vous êtes aussi vous, Mathieu Morgenstern, un personnage particulier de notre monde parce que vous êtes allé de l'autre côté chez Accenture pendant un an. Vous êtes allé
chez l'ennemi,
si c'est
ça,
l'ennemi, mais enfin en tout cas de l'autre côté de l'autre côté de la rivière. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous y avez appris, en quoi ça vous sert aujourd'hui.
Oui.
De connaître l'autre camp.
On parle souvent de la concurrence des cabinets conseils face aux groupes de communication. Donc moi j'ai eu la chance de passer un peu de temps dans un cabinet conseil pour monter une practice de consulting marketing, donc exactement le terrain de compétition. Bon, la réalité c'est que ces grands groupes conseils, c'est vrai, commencent à acheter des agences. On a vu Accenture acheter Droga5. Après, il y a un effet miroir, un effet loop, je dirais, d'annonce. Parce que si on regarde leurs acquisitions, au total, ça fait pas tant de monde que ça. C'est-à-dire, comparé aux 130 000 collaborateurs de WPP dédiés au sujet du marketing et communication, 300 personnes chez Droga5 à New York, ça crée pas une perturbation du marché. Après, on regarde ça de près, avec attention. C'est intéressant de voir qu'il y a une convergence. C'est plutôt bon signe parce que ça prouve qu'il y a une dynamique du marché. Et puis, ça prouve une chose aussi, c'est que ces sociétés comme Accenture qui sont issues de la technologie, elles s'intéressent au marketing parce que le marketing devient technologique. Mmh. Et nous, notre investissement dans la techno, il est là pour aller, pour conforter notre position de leader.
Pour aller tailler des croupières au cabinet de consulting?
C'est eux qui essaient de tailler des croupières aux
gros. Ça peut marcher dans l'autre sens aussi,
non? Ils tentent des choses. Pour l'instant, c'est encore léger.
Vous avez donc, on disait, un profil très technologique. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le futur de la pub? Vous parlez énormément d'investissement dans la tech. Est-ce qu'il y a encore une place pour la création dans ce monde-là?
La pub, en gros, elle a eu un pilier, c'était la création. Désormais, elle a deux piliers, mais qui sont de poids égal, qui sont la création et la technologie. Une très très bonne agence, c'est une agence qui va être capable d'adresser ses messages de la manière la plus pertinente possible à ses consommateurs. Plus la pub est en décalage avec les attentes des gens, moins elle est précise, donc moins elle est nourrie de data et technologie, plus elle est problématique pour les gens, moins elle est acceptée. Donc l'enjeu de la publicité, c'est de mettre la technologie au service de l'acceptation et de l'intérêt de la pub. Mais pour qu'elle soit acceptée et appréciée des gens, il faut que les idées créatives soient les meilleures, les plus intéressantes, les plus pertinentes, il faut qu'elles nous fassent rentrer dans des histoires. Donc création et technologie, ça doit faire qu'un. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé notre plateforme de machine learning Copilot, parce qu'elle vient en copilotage des équipes créatives pour leur permettre de délivrer leur message avec le plus d'intérêt possible.
Et on est à un petit peu plus d'un mois des Cannes Lions. Ça a été très critiqué, entre autres à l'époque par Martine Sorrel. Est-ce que ce qu'ils ont fait depuis pour simplifier, améliorer, disons le festival, vous semble bien d'une part. Et est-ce qu'il faut encore aller à Cannes dans ce monde de techno important?
Je comprends la question parce qu'il y a eu des mises en cause. Nous, on est très supportifs des Cannes Lions parce qu'ils se sont transformés. C'est devenu ce qui récompense, c'est cette nouvelle forme de communication. C'est la capacité des marques à être intéressantes dans la vie des gens, dans leur communication, en mettant création, nouvelle façon de penser la création, une écriture créative plus intéressante, mise en commun avec de la technologie. Aujourd'hui, les grands primés de Cannes, c'est ça. C'est les marques qui ont réussi à changer, qui font pas de la réclame, mais qui créent des expériences de marque nouvelles. Et ça, on le plébiscite chez nous. WPP, c'est le groupe historiquement le plus primé à Cannes tous les ans. Et on compte bien jouer un rôle majeur encore cette année, oui.
Sur la pub digitale, pour revenir à ce que vous disiez, on a quand même eu beaucoup de critiques ces derniers temps sur le fait que les mesures d'audience n'étaient pas 100% fiables et tout. Et pourtant, vous continuez d'investir massivement là-dedans. C'est-à-dire que de toute façon, il faudra absolument passer par là. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui.
La pub digitale, il n'y a pas d'alternative parce que c'est là où sont les gens. Les gens consomment ce média-là en priorité. C'est le premier média. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser la presse classique. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser la télé. Au contraire, hein, parce qu'il y a une vraie consommation de ces médias-là, en particulier en France. Mais il faut prendre en compte ce phénomène qui est que les gens consomment énormément les médias digitaux et en majorité sur leur mobile. Donc il faut être capable pour les marques de leur adresser des messages sur ces supports-là. Simplement, il faut être respectueux des gens et respectueux des marques. Aujourd'hui, les marques, elles sont souvent dans des environnements très pollués, soit par des contenus peu recommandables, soit parce qu'elles sont au milieu de dizaines d'autres annonceurs qui viennent. Pour les internautes, c'est souvent un problème. Trop de messages à la fois, ouais. Etc. Donc nous, on a eu une démarche proactive là-dessus, unique mondialement en France, qui s'appelle Trusted Place. On a créé une place de marché de sites internet qui sont extrêmement respectueux des gens, donc peu de publicité, dans des formats peu intrusifs, mais moins de publicité et donc plus intéressant pour les marques parce qu'elles ont une présence qui est plus claire, plus lisible. Donc cette marketplace, elle coûte plus cher à acheter, donc ça revalorise aussi la publicité en ligne. Ouais. Elle coûte plus cher à acheter, mais elle a plus de valeur. Et donc monter le prix de la publicité en ligne pour que ça rapporte le plus aux médias traditionnels aussi, hein, un titre de presse qui va sur Internet, il faut qu'il gagne sa vie. Si on veut assurer la pluralité des médias, ouais. il faut que ça marche. Donc on est très en proactif là-dessus et nos clients nous suivent très bien. On a beaucoup de clients qui font le choix de dépenser plus pour être mieux.
Merci beaucoup Mathieu Morgenstern. Je rappelle que vous êtes le CEO de WPP en France.
Merci.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Cette semaine, c'est avec Simon Tenenbaum de la rédaction de BFM Business. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors vous nous remettez une question à la une, la question qui agite tous les médias depuis plusieurs mois en France. Faut-il ou non autoriser la publicité segmentée? On a eu cette semaine, Simon, une étude qui nous donne quelques éléments de réponse.
Oui, c'est un sujet brûlant hein, depuis que le gouvernement a dit qu'il envisageait d'autoriser cette publicité segmentée. Pour rappel, l'idée c'est de permettre aux chaînes de télé de faire du ciblage hein, grâce aux box et aux télé connectées. On va pouvoir substituer un spot pour un autre en fonction de la localisation, l'âge, la catégorie socio-professionnelle du téléspectateur. Et ça serait évidemment une arme redoutable face aux GAFA pour les chaînes qui pourraient allier la puissance de la télé et la finesse du digital. Alors effectivement, toute la question maintenant, c'est de savoir quel serait l'impact économique sur le marché publicitaire. Et donc dans cette étude, le cabinet Oliver Wyman, et elle a interrogé une centaine de grands annonceurs français. Il en ressort déjà un appétit très important. 90% de ces annonceurs disent être intéressés par la possibilité de faire de la pub segmentée à la télé. C'est très massif. Et concrètement, en termes d'argent, cela veut dire que la publicité segmentée pourrait peser en l'espace de vraiment quelques années environ 200 millions d'euros. C'est beaucoup. Ça pourrait être un peu plus ou un peu moins en fonction de l'ouverture des critères retenus de cette autorisation.
Mais alors du coup, ça va se faire au détriment d'autres médias, cette augmentation.
Alors c'est là où l'étude est intéressante et vraiment inédite, c'est qu'elle estime d'abord la création de valeur de la pub segmentée, hein, ce qui se fait en plus du marché. Près de 60% des annonceurs interrogés disent qu'ils pourraient augmenter leur budget pub si la pub segmentée est autorisée. Ça veut dire que le marché pourrait croître jusqu'à 140 millions d'euros dans la version la plus optimiste. C'est pas rien, c'est néanmoins inférieur aux estimations des principaux défenseurs de cette mesure, le SNPTV, syndicat des régies des chaînes, qui avançait le chiffre de 200 millions d'euros de création de valeur. À côté de ça, il y a bien des budgets qui iront vers la pub segmentée au détriment d'autres médias. Et selon l'étude, ça viendra d'abord du digital, ensuite de la pub télé traditionnelle. En revanche, la presse régionale, la radio, l'affichage très opposés à cette libéralisation seraient peu touchés, selon l'étude. Ça, c'est une surprise. Radio et presse craignent en effet d'être les grands perdants, les indispensables, un budget des hypermarchés, des concessionnaires en région pourrait leur échapper. Et selon eux et leur propre étude, ils sont face à une perte potentielle de 300 millions d'euros de recettes publicitaires. Donc on voit bien la grande prudence qu'il faut avoir dans ce dossier, la grande prudence des politiques. Et il faudra maintenant attendre la fameuse grande loi audiovisuelle prévue au mieux pour cet été, pour voir quel est l'arbitrage qui sera retenu.
Merci beaucoup Simon Tenenbaum.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et dans le Zoom du jour, on s'intéresse cette semaine à la renaissance de marques mythiques. Pour ça, nous sommes en compagnie de Jérôme Ness. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur marketing produit chez Electrolux, qui détient la marque Frigidaire. Et Céline Le Tutor-Torici. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice marketing et communication chez Ops Group, qui détient la marque Patogas. Alors, Patogas comme Frigidaire, ce sont deux marques assez anciennes. Je crois qu'il y a 100 ans pour Frigidaire et à peu près 70, je crois,
70
pour Patogas. Comment est-ce que des marques qui, aussi emblématiques soient-elles, étaient tombées un peu dans l'oubli, comment est-ce qu'on décide de les relancer comme ça du jour au lendemain?
Alors, pour Patogas, c'est pas vraiment du jour au lendemain. C'est vrai que c'est une marque qui existe depuis 70 ans. L'histoire de Patogas est assez étonnante. C'est, si vous me permettez une petite digression, parce que ça vaut le détour. C'est une marque qui a été inventée par un inventeur René Elisabeth dans les années 50. Il a inventé beaucoup de choses. Un jour en Espagne, il voit des enfants jouer avec des pneus de voiture, des morceaux de pneus qu'ils accrochent à leurs pieds pour en faire des chaussures. Et c'est un fan d'escalade, il aime beaucoup son pays natal, le Pays Basque, il a envie d'escalader les monts pyrénéens et il cherche une chaussure pour pouvoir l'accompagner. Il n'en trouve pas, donc il la fabrique. Il prend un brodequin, il utilise une toile de brodequin, il y ajoute du caoutchouc, qu'il fait chauffer sur un réchaud, et donc ça devient la pâte au gaz. Et donc voilà, l'histoire est lancée, pâte au gaz est née.
Une jolie histoire, mais chez Frigidaire, ça s'est passé comment?
Nous, on a décidé de relancer la marque Frigidaire à l'occasion de l'anniversaire du groupe Electrolux. La marque Electrolux fête ses 100 ans cette année. Alors, ça donne lieu à tout un tas de lancements, d'innovations, 150 produits en tout, des fours, des tables de cuisson, des lave-vaisselle, chargés d'innovations. Mais on a aussi voulu profiter de cette occasion pour lancer une gamme de produits qui incarne à la fois l'héritage du groupe et de la marque, et aussi sa capacité à innover pour aujourd'hui et pour demain. Et donc, Frigidaire, c'est ça. C'est une marque qui est centenaire aussi cette année, mais qui est clairement rétro dans son design, qui s'inspire du code des années 50, 60, ouais. Coloré, gay, mais qui à l'intérieur reprend toutes les dernières technologies de préservation des aliments qu'on peut aussi retrouver sur les produits haut de gamme Electrolux, et ça vient compléter cette gamme anniversaire qu'on lance en ce moment.
Alors, moi, ce que je me demande, c'est comment ensuite, d'un point de vue pratique, on relance ces marques-là. Frigidaire, c'est un nom commun, donc oui. Quelque part, c'est pas très difficile de faire comprendre qu'un frigidaire, c'est frigidaire ou inversement.
Ça devient compliqué là. Voilà.
Mais comment est-ce que justement redonner envie d'acheter la marque d'origine chez nous? Comment est-ce qu'on fait pour dire c'est pas un frigidaire, c'est Frigidaire?
Le Frigidaire.
Ouais, c'est le Frigidaire. D'abord, on a fait ce constat aussi. C'est vrai que le Frigidaire, c'est encore un terme qui est utilisé pour désigner le réfrigérateur. Ouais. Quand vous regardez un peu sur Google, pour deux recherches de réfrigérateur, il y a encore une recherche de Frigidaire. Donc, le nom était là, la notoriété était encore là. Et après, pour essayer d'en faire un succès, il faut s'inscrire dans cette tendance de produits qui, à travers leur design, réussissent à évoquer un petit peu les belles années d'antan. Il y a un peu une certaine nostalgie dedans. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent sur le design, parce que c'est ça aussi qui va apporter une touche un peu personnelle, une touche de gaieté à votre cuisine. C'est vrai qu'aujourd'hui, les cuisines sont ouvertes sur le salon, c'est des pièces à vivre, donc le design est important. Mais pour les autres produits, comme les fours, les tables de cuisson, on va chercher des choses qui sont bien intégrées dans le mobilier. Et donc, le réfrigérateur, on sait que c'est un des derniers appareils sur lesquels on peut s'exprimer. Donc, il y a une vraie demande de design et d'originalité sur ces produits-là. Donc, Frigidaire répond très bien à cette demande-là.
J'imagine que chez Patogaz, vous avez la même problématique de design, parce que vous êtes dans la mode, donc dans quelque chose qui doit parler à des générations plus jeunes qu'en 1950, quand la marque a été créée.
Oui, tout à fait. En fait, Patogaz, c'est pas une marque qu'on relance, c'est une marque qu'on fait vivre de par son ADN. En fait, son ADN, le produit historique et l'authentique, pour nous, ça a été aussi son avenir. C'est-à-dire qu'on a vraiment utilisé ce produit-là qui a lancé la marque Patogaz. On l'a restylisé. C'est vrai qu'on lui a apporté des couleurs très Pepsi et on l'a relancé. Alors, vous avez peut-être des visuels pour montrer comment elle a été mise au goût du jour. Mais effectivement, l'idée, c'était vraiment de l'installer dans un univers très moderne, très design, très mode, tout en conservant vraiment son ADN et ce qui avait fait sa singularité et quelque part toutes les valeurs aussi que la marque, à travers cette chaussure, évoquait les notions d'audace, de liberté, l'envie de marcher, l'envie de choisir la marche comme presque un territoire d'expression à part entière. Et c'est vraiment ce qui nous a animé au départ quand on a retravaillé le produit. C'était vraiment de reconstruire toute l'histoire autour de l'authentique et de faire une campagne, notamment enfin sur des claims qui pour nous étaient très évocateur de ce que la marque aussi raconte, c'est renouer avec la liberté, seul le détour vaut le détour, marché, égalité, fraternité, envoyez-vous balader, voilà. Tout ça, ça fait l'ADN de Patogaz, mais quand vous voyez les visuels, c'est extrêmement moderne et contemporain.
Ouais, mais justement, Patogaz, alors ça a été, je pense, un nom commun à une époque, mais les générations des consommateurs potentiels et réels de Patogaz, ils n'ont pas connu cette époque-là. Donc comment est-ce que ça se passe là, de ce côté-là, est-ce que le passé finalement de la marque est si important que ça pour des gens qui ont 20 ans et pour qui les anciennes Patogaz ça évoque rien quoi?
Alors en fait, ce qui était très intéressant et très étonnant surtout, c'est qu'effectivement la marque a très bien fonctionné jusque dans les années 70-80. Ensuite, il y a eu une petite érosion, la marque a été rachetée dans les années 80 par Vivarte. Elle a été relancée notamment avec des collaborations assez fructueuses avec Jean-Paul Gaultier, Castel Bajac, Agnès B, etc. Et quand on a repris la marque, donc ça fait un peu moins de 2 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait dans l'inconscient collectif une référence très forte à la marque Patogaz chez les quinquagénaires, les quadragénaires, mais également les trentenaires. Et c'est vrai que quand on a parlé, on a fait des études pour savoir comment évoluait la marque, comment elle se positionnait. Et c'est vrai que tout le monde avait entendu parler de la marque Patogaz. Donc pour nous, ça a été formidable parce qu'une marque avait été un petit peu mise à l'abandon et malgré quelques collaborations qui avaient quand même été assez peu mises en avant, elle avait quand même toujours cette image extrêmement forte auprès de son public. Et nous, ce qu'on s'est attaché à faire, c'est retravailler le produit, retravailler une campagne de pub comme vous venez de la voir et aller chercher les cibles qui nous intéressaient, qui étaient les 30-40 ans, sur les supports digitaux et essentiellement sur Facebook, où on a mis en place des campagnes qui ont extrêmement bien marché. Bien entendu, derrière, il a fallu qu'on refasse le site e-commerce qui aujourd'hui a augmenté en un an de 75%, enfin le chiffre d'affaires a augmenté 75% sur le e-commerce grâce à nos campagnes digitales. Et ça montre que cette marque qui a 70 ans, qui a été extrêmement, je trouve, très bien réussie en termes de design, a trouvé une audience dans les populations qu'on cherchait à toucher, qui étaient les 30-40 ans.
En faisant le tour avec Frédéric, en préparant cette émission, des marques mythiques comme ça qui ont été relancées, j'ai vu KOS, Solex, Alpine, Repetto, plutôt des marques haut de gamme. C'est aussi le positionnement que vous avez choisi chez Frigidaire, parce que la renaissance aujourd'hui, c'est forcément quelque chose de haut de gamme.
Oui, d'abord il faut que la marque elle évoque quelque chose parce que de par son histoire, de par plein de choses, donc forcément elle se positionne déjà un petit peu à part. Et c'est vrai que si on cherche un peu cette authenticité en s'attachant à des marques comme Frigidaire ou Kawai, on n'a pas envie de faire de compromis sur la technologie à l'intérieur. Les Frigidaires d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les Frigidaires des années 50. Ils sont extrêmement silencieux. Ils permettent de préserver les aliments beaucoup plus longtemps, jusqu'à 14 jours, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et ça, c'est valable sur tous les marchés. Hein. Dans l'automobile, vous avez aussi des marques qui font appel à ces codes un petit peu rétro. Mais à l'intérieur, vous avez les technologies, des technologies
dernier cri. Mais c'est parce que c'est plus rassurant, c'est plus légitime Qu'est-ce qui va faire le moteur de ça? Je pense plus à Frigidaire en l'occurrence qu'à pâte au gaz où on est sur la mode, mais quand on est sur un produit comme Frigidaire, je crois ils sont pas donnés, c'est
plus de 1000 euros,
donc bon, c'est clairement
un haut de gamme quoi. Donc le fait d'avoir la marque Frigidaire, c'est un peu comme, pour reprendre un exemple automobile, se dire c'est comme Mercedes, je suis rassuré parce que c'est une marque patrimoniale qui a 100 ans, que peut-être mes parents ou grands-parents ont eu.
Oui, c'est haut de gamme pour toutes ces raisons-là, parce que ce sont des petites séries, des designs beaucoup plus audacieux qui ont été développés spécialement pour l'occasion. Donc il y a aussi un investissement de base qui est plus fort de notre part sur cette marque-là. C'est haut de gamme parce qu'on a fait le choix à l'intérieur de mettre des technologies extrêmement haut de gamme comme sur les autres produits du groupe Electrolux qui sont positionnés de cette façon-là. Et c'est haut de gamme aussi parce que le ressenti qu'on va avoir par rapport à la marque, il est très positif. Vous savez, une marque, pour arriver à se positionner sur des segments haut de gamme, c'est tout ce qu'elle va vous évoquer, tout ce qu'elle va raconter sur vous qui va permettre ça. Frigidaire, il y a un lien particulier avec la France et les Français. C'est pas une marque française à la base, Frigidaire.
Oui, pense que la plupart des Français pensent que c'est une marque française.
Exactement. quand on pose la question, on a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est une marque française. C'est plutôt une marque américaine, la marque du groupe Electrolux sur le marché américain. Mais elle a une histoire particulière avec les Français parce que dans les années 50-60, quand elle commençait un peu à décliner, il a fallu leur donner un coup de jeune. Et là, on a fait appel à un designer qui s'appelle Raymond Lévy, qui s'est vraiment démarqué avec l'audace des lignes qu'il a su donner au Frigidaire de l'époque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit Frigidaire, on pense réfrigérateur, on pense France, parce que c'est toute cette histoire et tout ce véhicule-là. Ça fait que la marque, quelque part, dans notre inconscient collectif, elle se place un petit peu à part, et on n'a pas envie, je pense, un consommateur n'a pas envie d'avoir un Frigidaire bas de gamme dans son salon. Il préfère un Frigidaire avec un très beau design, bien équipé à l'intérieur et qui va refléter tout ça.
Merci beaucoup Jérôme Ness. Je rappelle que vous êtes directeur marketing des produits d'Electrolux. Céline Le Tutor Torici, directrice marketing et communication de Hobbs Group. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.